Vous écoutez France Culture.
7h42 minutes.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Enterré l'UMP, bonjour les Républicains, samedi. Donc l'UMP tenait sa grand-messe à Paris, porte de Versailles, une épiphanie de la droite, sans paillettes par contre, puisque le congrès devait être à Bakou, enfin non pas en Azerbaïdjan, mais peu cher, avait promis Nicolas Sarkozy, la dette de 69 millions du parti, elle ne disparaissant pas avec le nom. Mais s'il y avait bien un baptême, s'agissait-il de la naissance de quelque chose? Tous les membres sortant du bureau politique de l'UMP sont reconduits, et les nouveaux statuts prévoient surtout d'associer davantage les militants, plus de démocratie directe interne, cela consacrera peut-être encore davantage Nicolas Sarkozy dans son rôle de meneur de l'opposition, puisqu'il reste, selon les sondages, une des personnalités préférées des sympathisants de droite, encore que cette place lui est disputée par d'autres au sein même des Républicains. Il semble surtout que les Républicains soient en train de se mettre en ordre de bataille avant 2017, en passant les troupes en revue. D'autant qu'au même moment, la gauche, elle, s'organise aussi. Jean-Christophe Cambadélis a été réélu jeudi dernier à la tête du Parti Socialiste, et le Parti Socialiste, lui, tiendra son congrès le week-end prochain à Poitiers, donc une semaine après celui des Républicains. Ça va être compliqué, hein. Alors, sommes-nous en train d'assister aux premières balles d'un match retour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy en prévision de 2017? L'UMP peut-elle parvenir à conserver l'unité qu'elle voulait afficher? Et pourquoi le PS et les Républicains semblent-ils avoir tant de mal à structurer leur parti et leurs idées? En deuxième partie d'émission, nous parlerons de tout cela avec Françoise Fraisseuse, journaliste et éditorialiste au Monde, et avec Éric Dupin, également journaliste et essayiste, entre autres chroniqueur sur Slate.fr. Mais tout de suite, nous démarrons avec, alors je dois dire quoi, le Républicain, Franck Riester.
Député républicain. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
De la 5e circonscription de Seine-et-Marne et maire de Colomiers. Bonjour Franck Riester.
Bonjour à vous.
Bon, à part un ravalement de façade, rien de nouveau sous le soleil. Tout le monde a les couteaux aiguisés. Ça a été chaud, hein, ce congrès.
Écoutez, en tout cas, c'était un engagement de Nicolas Sarkozy, nouveau président de l'UMP, de changer le nom du parti. L'engagement était tenu. Il y avait un autre engagement, c'était de faire en sorte que la famille soit la plus rassemblée possible dans la perspective des élections départementales et régionales, et globalement, c'est le cas, objectivement. Par contre, il est clair que l'essentiel, ça sera 2016, à la fin de l'année 2016, le choix que devront faire les électeurs de droite, celles et ceux qui ont envie de l'alternance, concernant le projet et celui ou celle qui devra porter le projet de l'opposition actuelle, de la droite et du centre, à l'élection présidentielle de 2017. Il y a des ambitions claires, on les a ressenties aussi très clairement ce week-end, et ben ces ambitions, elles sont normales. Il s'agit de représenter une alternance pour notre pays, une alternance à la politique du gouvernement actuel. Et pour cela, nous avons fixé une règle pour choisir celui ou celle qui nous représentera, pour porter cette alternance. Cette règle, c'est la règle des primaires, pour pas que ça parte dans une guerre fratricide comme on a pu l'avoir en 95. Et cette règle, elle a été fixée par tous, reconnue par tous. Ces élections primaires, elles auront lieu les 20 et 27 novembre 2016, et dans un an et demi. Pendant ce temps, il va falloir un an et demi pour que chacun ou chacune qui veut se présenter à l'élection présidentielle prépare, porte un projet aux Français, et ça sera les Français qui le souhaitent, qui voteront. Alors, et qui trancheront.
Il ne fait pas mystère que vous êtes, vous, en soutien de Bruno Le Maire.
Oui.
Vous avez fait partie des gens qui ont sifflé Juppé ou pas, vous?
Non. D'ailleurs, ça, c'était un moment le plus désagréable. Il y a eu un moment très désagréable, deux moments très désagréables, c'est quand François Fillon et Alain Juppé ont été sifflés. Ce sont deux grands hommes d'État, deux grands leaders de notre famille politique. C'est inadmissible que dans un parti comme le nôtre, on est dans la même famille, on partage les mêmes valeurs, on puisse siffler des personnalités comme eux.
Ils sont sifflés sur commande?
Non, je pense pas. Franchement, je peux pas croire ça. Je pense que c'est des militants qui sont très sarkozistes et qui voient bien qu'il y a en face de Nicolas Sarkozy des gens qui sont candidats à être choisis par leur famille politique à la place de Nicolas Sarkozy. Ouais. Voilà, donc la compétition de ce point de vue-là est un peu commencée dans les têtes, et notamment chez les plus militants. Mais ces sifflets, ces huées, il y en avait un certain nombre, mais c'était loin d'être la majorité des militants qui étaient présents.
Pourquoi les non-sarkozistes ne sifflent pas Sarkozy
Mais parce que, je sais pas, parce que peut-être ils sont moins passionnés, je sais pas.
Allez, des questions plus sérieuses de politique avec Frédéric Bétézo.
Non, mais c'est sérieux. Franck Riester, les Républicains ex-UMP sont dans l'opposition depuis 3 ans et demi maintenant. Il n'y a toujours pas une ébauche de programme. Et quand on voit les personnalités en lice, Juppé, Sarkozy, Le Maire, Fillon, Bertrand, on se demande si un jour votre famille politique pourra se mettre d'accord. Quand on regarde l'Europe, quand on regarde les politiques sociales, quand on regarde la diplomatie, quand on regarde la question du mariage pour tous, on n'est pas toujours d'accord sur tout dans votre famille. Il y a possibilité en un an, finalement un an c'est très court, de se mettre d'accord.
je crois qu'on ne se mettra pas d'accord sur tout, non. Je crois qu'il y aura besoin de trancher. C'est tout l'objet des primaires. Il faudra que les Français tranchent un projet. Effectivement, il y a des différences sur l'Europe. Est-ce qu'il faut sortir ou pas de Schengen ?
C'est pas rien.
Bah non, c'est pas rien. Et bah, les Français trancheront.
Mais on peut rester dans la même famille en étant divisé sur autant de questions ?
Attendez, regardez ce qui se passe dans n'importe quelle famille politique. Franchement, en matière de différence au Parti Socialiste, là, ils sont passés maîtres. Donc, c'est normal. Enfin, franchement, les sujets sont tellement compliqués. Et si on est un parti de républicains qui a vocation à rassembler une majorité de Français, forcément qu'il y a des sensibilités. Mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'il y ait une règle pour trancher ces différences, pour qu'ensuite ça soit le projet porté par toute la famille. Et ce moment-là, ça ne peut être que les primaires. Si on veut le faire sérieusement pour l'intérêt de notre famille politique, mais surtout pour l'intérêt de la France, il faut que ça se fasse à un moment précis. Et ça sera les primaires. Il y a d'autres différences, je vous les ai répliées, c'est les sujets de société comme le mariage pour tous, il y a les questions autour des sujets sur la sécurité, sur la justice. Bref, tous ces sujets-là devront être tranchés au moment des primaires.
Tous les...
Frédéric Mettezo.
Candidats qui s'opposent à Nicolas Sarkozy en vue des primaires ou leur soutien, comme vous, Franck Riester, Martel, les primaires, comme si ça n'allait pas de soi. Vous avez encore un doute ?
Non, ça va
On
pas.
A ce sentiment.
Écoutez, ça n'allait pas de soi. C'est la première fois que la droite française organise des primaires en son sein. Donc c'est quand même une vraie nouveauté. Donc oui, il faut être vigilant sur le fait qu'une règle commune. Il a fallu être vigilant sur le fait qu'il y ait une règle commune qui soit fixée. Elle a été fixée, elle fait partie des statuts, cette règle des primaires. Et donc maintenant, il faut être vigilant pour que, alors, globalement, la compétition se passe bien, sans que ça parte, encore une fois, en guerre fratricide.
Alors, vigilant, certains le sont plus que d'autres, hein, je ne sais. Mais en tout cas, on a bien vu, notamment Alain Juppé. Je ne connais pas, et je n'ai pas vu encore l'avis, justement, de Bruno Le Maire, mais vous allez nous le dire, vous qui êtes un peu son porte-parole, Franck Riester. Mais enfin, dans ces primaires et ce nouveau parti, Les Républicains, Alain Juppé est très vigilant, il considère qu'il y va de la bonne santé des Républicains que si l'on fait de la part belle, notamment au centre et aux centristes, pour ces primaires-ci. Écoutez-le, il était au micro de Jean-Pierre Elkabbach hier sur Europe 1.
Je ne suis pas le seul dans le parti à dire qu'il faut s'ouvrir. Je vous rappelle que l'ADN de l'UMP, c'est l'union de la droite et du centre. Et je n'ai pas observé que les Républicains avaient renoncé à cet ADN. Si c'était le cas, je pense que ce serait tout à fait dangereux pour l'avenir.
Alors, ça, c'était Alain Juppé, et peu d'heures après, chez nos amis d'RTL cette fois, Jean-Pierre Raffarin enfonçait le clou au grand jury RTL LCI Le Figaro.
Juppé a raison. Juppé a clairement raison. À quoi servirait une primaire si c'est pour faire un congrès du Parti Républicain, des Républicains ? Et donc, c'est une vision que nous approuvons tous. Il est clair qu'il faut qu'elle soit élargie. Mmh. Qu'est-ce qui est intéressant ?
C'est un risque ?
Ben, ce serait un risque dès qu'il y a un candidat du centre au premier tour. Si évidemment il y a un candidat du centre au premier tour, à ce moment-là, on a des risques de ne pas être qualifié pour le second tour.
Voilà. Bah oui. Franck Riester.
Évidemment, c'est pour ça qu'on a fait en sorte que les règles du jeu permettent le rassemblement le plus large. Il y a une charte où, si vous voulez voter aux élections primaires de la droite et du centre, il faudra que vous reconnaissiez dans une charte ou signer une charte comme quoi vous faites partie de vous partagez les valeurs de la droite et du centre et vous souhaitez l'alternance de notre pays.
Oui, mais pourquoi Raffarin et Juppé le martèlent-ils à ce point ? Ça n'allait pas de soi au départ, cette question quand même des centristes.
Parce qu'il peut y avoir peut-être une tentation quand on est président du premier parti de l'opposition de faire en sorte que la primaire soit, je dirais que ça soit plus une validation de sa candidature, plus qu'un vrai choix, ouvert le plus large possible. Donc il est très important qu'on reste concentré sur le fait que cette primaire soit la plus large possible, parce que c'est important pour être qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle et que deuxièmement, ça puisse donner le maximum de légitimité à celui ou celle qui sera choisi. Voilà. Nous considérons, vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure, qu'il faut un grand vent de renouvellement dans la droite et le centre en France. Nous avons besoin pendant 10 ans de porter des réformes fortes, radicales, pas extrémistes, loin s'en faut, mais radicales de notre pays. Pourquoi il y a autant de Français qui se détournent de la politique ? Pourquoi il y a autant de Français qui votent aux extrêmes ? C'est parce qu'ils n'ont plus confiance dans les responsables politiques qui, depuis 30 ans, par atermoiement, reniement, n'ont pas mis en œuvre les réformes qu'ils avaient pourtant annoncées. Nous devons conduire ces réformes. La France en a besoin, les Français l'attendent. Et donc, il faut des idées neuves, il faut des hommes neufs pour porter ces idées, les mettre en œuvre.
C'est le renouveau, le maître mot de chez Bruno Le Maire, c'est le renouveau.
Regardez ce vent qui souffle en Europe, avec Matteo Renzi, avec David Cameron, il y a encore 5 ans et qui a été réélu. Il n'a que 48 ans, David Cameron, mais il a été élu à 43 ans. Matteo Renzi, 40 ans. Xavier, 39 ans même. Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, 40 ans.
Alexis Tsipras, 40 ans.
Alex, il y a ce vent de renouvellement qui souffle dans notre pays, dans Europe. Et on l'a vu, il souffle aussi en France. Il souffle avec les départementales, avant ça, les municipales. Nous considérons
et
que
même
pour
en Espagne, même si ce n'est pas la couleur politique, d'une façon, une nouvelle génération, Podemos, Ciudadanos.
Vous avez raison. Et donc, nous avons besoin de porter cette nouvelle génération, porter cette nouvelle façon de faire la politique, parce que c'est pas qu'une question d'âge, hein, c'est aussi de nouvelles pratiques et des nouvelles idées. Et Bruno Le Maire, il est déterminé à porter ce projet de renouvellement radicalement différent, avec la volonté ensuite de le mettre en œuvre, en l'ayant fait valider par les Français. Je crois que c'est pas si compliqué que ça de retisser les liens de confiance avec les Français. Dire des choses fortes qu'attendent les Français et ensuite les mettre en œuvre si on est élu.
Frédéric Mettezo.
Tiens, par exemple, Franck Riester, aujourd'hui Manuel Valls reçoit les représentants des TPE et des PME pour parler facilité à l'embauche et facilité à licencier, nous expliquent les représentants du patronat. Alors, Bruno Le Maire et vous-même et votre courant des Républicains, qu'est-ce que vous dites des 35 heures du CDI, par exemple?
Alors, Franck Riester. On a besoin d'assouplir les règles de notre pays pour recréer cette espérance des chefs d'entreprise et aussi des salariés qui travaillent dans les entreprises. On a besoin de ce vent de liberté, de création, d'innovation.
Elles ont été assouplies, les 35 heures en 2007.
Oui, elles ont été assouplies, mais on n'a pas été assez loin. Il faut créer
on
de la souplesse.
On assouplit ou on termine les 35 heures?
Alors, moi, je pense qu'il faut y mettre fin parce qu'on ne peut pas caler la règle du temps de travail partout dans toutes les entreprises, que ce soit des TPE, des grandes entreprises, en fonction des secteurs d'activité. On a besoin de créer de la souplesse, soit par branche, soit par entreprise. Et il faut savoir qu'on a assoupli les 35 heures, mais ça reste un coût monumental de plusieurs milliards d'euros chaque année pour compenser, à l'époque, ça avait été mis en place par Martine Aubry, pour compenser la mise en œuvre des 35 heures, pour pas que ça pèse de trop sur le coût des entreprises. Et c'est plus possible, on peut plus se permettre de subventionner l'emploi, subventionner les entreprises pour l'emploi. Il faut avoir le courage de dire aux Français qu'il faudra travailler plus et différemment. Il faut avoir le courage de dire que aujourd'hui, les sécurités qu'on a mises dans nos contrats de travail deviennent des barrières à l'embauche et pas ce sont des fausses sécurités. On se donne bonne conscience en mettant des sécurités fortes, mais qui, in fine, mettent à l'écart d'un grand nombre de Français, non seulement de l'emploi, mais aussi de situations de stabilité dans l'emploi. Regardez la précarisation de l'emploi. Combien il y a de Français qui travaillent en CDD? Combien il y a de Français qui sont au chômage?
85% des Français qui rentrent dans l'emploi rentrent en CDD.
Oui, mais c'est plus possible.
En CDD, il faut un seul contrat. Le CDI, c'est fini.
Il faut un seul contrat et qui, en fonction du temps, augmente ses garanties. Voilà, quelque chose de moderne.
Fameuse proposition de Jean Tirole, l'entrepreneur Nobel d'économie,
bien évidemment,
qui depuis longtemps
plaide
pour ça.
Et qui a été mise en œuvre dans un grand nombre de pays européens. Regardons ce qui marche à l'étranger. Donc, effectivement, il faut assouplir tout ça. Ça veut dire qu'il faut un contrat, un code du travail allégé. Bruno Le Maire dit 150 pages sur l'essentiel. C'est les garanties fortes qui font de notre contrat social. Et ensuite, par branche, par entreprise, tout doit être négocié entre les chefs d'entreprise et les salariés.
Est-ce que vous vous reconnaissez, Franck Riester, dans le discours de Nicolas Sarkozy, pour qui, je le cite, la gauche a abîmé la République, a favorisé le communautarisme? Vous avez le sentiment que François Hollande et Emmanuel Valls ont abîmé la République? Tiens, un exemple aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur du service civique pour tous ceux qui le souhaitent, de 16 à 25 ans. C'est plutôt fédérateur et républicain, ça, non?
Franck Riester. Oui, moi, je pense que ça, c'est plutôt une bonne mesure. Écoutez, moi, je pense que les Français attendent de nous des propositions fortes sur le fond et le moins d'invectives possible sur les personnes et le moins d'anathèmes possible. Je crois qu'il faut changer aussi notre façon de faire. Je vous parlais de nouvelles pratiques. Regardez Bruno Le Maire pendant le débat sur le collège. Jamais il attaquait Najat Vallaud-Belkacem. Il s'est concentré...
En creux, contrairement à Nicolas Sarkozy.
C'est vous qui le dites. En tout cas, il s'est concentré sur le fond. D'abord la critique du projet qui était présenté, mais surtout sur les propositions qu'il pouvait porter pour le collège. Un collège diversifié et pas un collège unifié. Mais pas d'attaque personnelle. Vous savez, les Français n'en peuvent plus de ces débats stériles. Quand on est de droite, on dit que la gauche est nulle. Et quand on est de gauche, on dit que la droite est sectaire ou que la droite, c'est nul. Ça suffit. Regardons le fond. Surtout qu'il y a bien des sujets où les clivages gauche-droite sont largement dépassés.
Jean-Christophe Cambadélis, tout à l'heure, dans le journal, le son qui était diffusé, disait au fond tout de même qu'il est regretté que les Républicains soient plus en ordre de bataille contre le Parti Socialiste aujourd'hui que contre le Front National.
Oui, alors ça, franchement, ça aussi, c'est insupportable. On n'en peut plus de ce discours du Parti Socialiste qui n'arrête pas de nous donner des leçons de morale sur le fait qu'on serait en train de se rapprocher du Front National. Regardez sur les actes, ce qui a été fait, jamais une alliance depuis la fin des années 90 avec le Front National. Et systématiquement, dès qu'un de nos élus ou candidats essaye ou dit qu'il souhaite un accord avec le Front National, il est exclu de notre parti. Alors, pas de procès d'intention. Et Jean-Christophe Cambadélis, justement, il fait la politique à l'ancienne, comme je le critiquais à l'instant. quand il a sorti cette lettre ouverte à Bruno Le Maire, le critiquant personnellement, essayant de trouver tous les arguments de mise à, en porte-à-faux personnel plutôt que se concentrer sur le fond de la réforme des collèges, c'est inadmissible. Essayant à gauche comme à droite de monter le niveau de jeu, les Français nous demandent ça. Écoutons-les.
Alors sur le fond, cela dit, comment vous pensez que les choses peuvent se passer? Parce qu'évidemment, médiatiquement, on voit bien comment la presse aussi aime à décrire le Front National comme la troisième force du pays, ou qui sait, la première dans quelques années. Tenez, il y a eu une élection dans le Vaucluse hein, ce week-end. Le candidat du Front National, Joris Ebrard, a été facilement élu dès le premier tour au Pontet. Il avait face à lui Jean-Firmin Bardiza sans étiquette et une candidate UMP républicain, Caroline Joly, alors que son élection en plus avait été invalidée pour des signatures religieuses. Réélection, il est facilement élu au premier tour, 60%, 59-43% des voix face à deux candidats.
La candidate des Républicains fait 12,5%.
Ouais. Non mais attendez, dans mon canton de Coulommiers au départemental, le Front National a fait 39,68%. Oui. Je dis, c'est une grande claque. Il y avait la candidate, il y avait deux candidats évidemment, c'était un binôme, mais la candidate sortante sur le canton de Coulommiers est une élue enracinée, compétente, de qualité, et pour autant, le Front National au premier tour a fait 39,68. On a gagné in fine, mais enfin, quand même. Et pourquoi, quand j'ai rencontré les gens, ils disent « Monsieur Rista, mais c'est pas contre vous, on n'en peut plus de cette administration dont on a le sentiment qu'elle nous asphyxie quand ils sont chefs d'entreprise, agriculteurs, on n'en peut plus de voir certains jeunes délinquants qui nous pourrissent la vie au quotidien et qui sont relâchés facilement par la justice, on n'en peut plus de la façon dont vous faites la politique. » Voilà ce qu'ils nous disent. Donc il faut que nous, on entende ce message-là. Il faut à la fois donc un projet fort, radical, qui permette vraiment de changer la donne de nos compatriotes au quotidien. Aujourd'hui, ils n'en ont pas du tout la perception, loin s'en faut.
Et c'est surtout quoi, sur les questions économiques, donc.
Sur les économiques, de sécurité.
Sociétale qu'économique.
Économique et société. Évidemment, la priorité des priorités, c'est l'économique, c'est l'emploi, c'est l'allègement des contraintes pour les entreprises, le fait que les gens puissent trouver rapidement un emploi. Mais c'est aussi le transport, mais c'est aussi du quotidien. C'est aussi le fait, comme je vous dis, de ce gars qui avec son scooter, leur pollue la vie tous les jours et qui, à un moment donné, est pris en flagrant délit de trafic et qui est relâché quelques mois ou quelques jours après. Ils n'en peuvent plus de tout ça. Et donc, nous, on a une grande responsabilité, c'est que le projet soit à la hauteur des enjeux, à la hauteur de leurs attentes, et qu'ensuite, si ils nous font confiance, qu'on le mette enfin en œuvre. Pourquoi ils en ont marre? Ça fait 30 ans qu'on leur a fait des promesses et que ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, ils veulent maintenant juger sur pièce.
Une toute dernière explication, parce qu'il est déjà 8 heures.
Ce jeudi 4 juin, journée de travail sur l'islam du nouveau parti Les Républicains. On est passé d'une convention à un séminaire à huis clos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement clivant qu'on ne peut pas en parler sereinement à droite?
Oh, pas qu'à droite, parce que c'est un sujet qui ne mérite pas d'être traité comme un sujet anodin. La religion, c'est un sujet sensible ne doit pas être préempté d'une manière trop politicienne par les responsables politiques. Et ça aurait donné le sentiment qu'on utilise l'islam à des fins politiques. Et je pense que vraiment, c'est le type de sujet qui mérite beaucoup, beaucoup de prudence et qui mérite une façon d'être traité très différente que peut-être elle aurait été traitée.
Bon, la petite phrase de ce week-end, hein, c'est celle d'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy a le parti, j'ai l'opinion. Qu'est-ce qu'il reste à Bruno Le Maire?
Le renouveau.
Merci Franck Rester d'avoir accepté notre invitation. Louison a fini par arriver, il y a un petit dessin qui arrive et puis Brice Couturier, il faut se grouiller parce qu'il est déjà 8h30.
Alors je me dépêche, je reviens sur la petite information qu'on a eue ce matin sur la liste noire de Vladimir Poutine. Moi j'ai repris l'information de ce week-end sur le fait qu'Alain Juppé a été hué pendant le congrès et donc j'ai dessiné notre ancien président Nicolas Sarkozy, disant qu'à chacun sa liste noire. Voilà.
Voilà. Et Brice Couturier, la deuxième partie avec nos invités Françoise Fressoz et Éric Dupin.
Oui, vous avez parlé de la méfiance, de la perte de confiance dans les élites politiques. La question que j'aimerais poser, c'est la suivante. Dans plusieurs pays d'Europe sont apparus de nouveaux acteurs. Ainsi, au municipal régional en Espagne, Podemos à gauche et Ciudadanos à droite ont fait une percée remarquable. Peut-on imaginer qu'en France aussi, le renouvellement doive passer par la création de formations nouvelles?
Voilà, réponse à 8h15 avec nos invités, Françoise Fressoz, Éric Dupin, 8h01.